RTV 95.7, Music & News, avec Marianne Attanchot.
Écoutez Music & News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 95.7.
Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Vespini et je suis auteur de 28 livres essentiellement sur le sport et le cyclisme, dont ce fameux livre sur le Tour de France se joue à l'Alpe d'Huez. C'est peut-être un rêve d'enfant, tout simplement. Au départ, le vélo était un moyen pour un petit peu s'affirmer. Quand on est enfant, c'est super de partir sur les routes tout seul. Et puis ensuite, ça a été le rêve de rencontrer des coureurs et donc d'essayer, à travers le journal pour lequel je travaillais, ça a été le Provençal puis la Provence, d'essayer de pouvoir être autorisé à faire le Tour de France et ensuite rencontrer les coureurs. C'est un grand bonheur quand on peut être proche des champions et qu'on peut partager quelquefois un petit peu leur intimité. C'est de plus en plus dur parce qu'il y a tellement de journalistes et les champions sont ultra protégés maintenant. Mais bon, il y a eu quand même, j'ai passé quand même quelques bons moments avec certains d'entre eux. En fait, l'Alpe est arrivée un peu tard sur le parcours du Tour de France. On peut dire que c'est une montagne moderne, entre guillemets, en comparaison du Tourmalet, par exemple, ou du Galibier, qui date de 1910 et 1911. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même une grande attirance. Il se passait beaucoup de choses sur ces pentes-là, sur ces 21 virages. Et l'Alpe est rentrée dans le mythe. Donc ça m'a intéressé, ça m'a d'autant plus intéressé que dans les premiers tours que je faisais, nous logions à l'hôtel Christina, en haut de l'Alpe d'Huez, et l'hôtel était dirigé par Georges Rajon, qui est l'hôtelier qui est à l'origine de l'avenue de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France en 1952, puisque la grande histoire, ce sont les hôteliers au départ qui ont voulu attirer le Tour pour faire parler un petit peu de leur station et développer le sport d'hiver. Et quand j'ai vu Georges Rajon, qui était à l'aise avec tous les champions, qui les connaissait, les plus grands venaient dormir chez lui, je me suis mis ça dans un coin de la tête, et au moment, ensuite plus tard, quand je me suis mis à écrire des livres, je l'ai appelé, il m'a reçu. On a passé une journée formidable et il m'a raconté le côté, entre guillemets, historique, c'est-à-dire l'origine de l'Alpe d'Huez et du Tour. Et après, bon, bien sûr, moi, j'ai fait mes recherches et j'ai rencontré d'autres coureurs et d'autres champions pour essayer d'enrichir le livre. Le Tour de France, comme disait Aragon, c'est le peloton qui passe au pied des portes de tous les Français. Et c'est les vacances de juillet. Je crois que si on faisait le Tour un autre mois que juillet, il n'y aurait pas le même succès. C'est la caravane. N'oublions pas que plus de 80% des gens qui viennent sur le Tour ne sont pas trop au courant des enjeux sportifs, mais viennent pour la caravane. C'est la fête. Et puis après, quand on est dans la montagne, c'est à la fois la fête, le plaisir d'être sur les hauteurs, et puis un peu le défouloir pour certains supporters qui encouragent quelquefois un peu trop les coureurs. Bon, le Tour de France, c'est tout ça. C'est, moi, je dirais Tour de France, Tour d'enfance, parce que finalement, quand on y vient enfant et quand on est accompagné, par exemple, par un grand-père ou un père, on garde ses souvenirs à jamais. Et je pense que le Tour est lié à ça. Il est lié à la fois à la beauté de la France, il est lié aussi, je pense, à l'enfance, et puis n'oublions pas, il est lié au dépassement et à l'envie de se surpasser des coureurs, parce qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, et Dieu seul sait si je ne suis pas quelqu'un qui défend le dopage, mais je ne connais pas un sport aussi exigeant et aussi terrible que le cyclisme pendant le Tour de France. 3 semaines d'efforts et tous les jours en train de se remettre en question pour essayer de terminer et être fier d'être à Paris, je pense que ça mérite beaucoup de compréhension et d'applaudissements. Il y a 21 virages, en fait il y en a peut-être plus, mais bon, il y en a 21 qui sont numérotés. Eh bien c'est toujours pareil, c'est l'histoire qui est liée donc à l'hôtelier Georges Rajon. C'était un homme qui aimait la chasse et qui partait chasser un peu dans tous les pays, et il était en Yougoslavie, il montait un col qui s'appelle le col de Vrizik, lorsqu'il s'est aperçu que les virages étaient numérotés. Et il s'est dit, mais ça serait une très bonne idée de numéroter les virages pour faire connaître la station. Parce qu'en réalité, quand les virages ont été numérotés, la première fois c'était en 1964, le Tour n'était pas au menu. Il n'était pas là. Le Tour de France est arrivé en 1976. Donc la première fois où les virages ont été numérotés, c'était pour développer le tourisme sur l'Alpe d'Huez. Et ensuite, quand le Tour de France est arrivé, ces virages numérotés ont joué un peu le rôle d'un immense sablier géant qui déroulerait le temps et donc ajouterait un peu de suspense à la course, parce que là on se disait, chaque fois qu'on approche du virage numéro 1, on a moins de chances de perdre la course, ou on a plus de chances de ne plus pouvoir se rattraper. Donc c'était quand même, ça ajoute, je trouve, à l'intensité de l'effort. Au départ, ça a été le cas dans les premières années de l'Alpe d'Huez. C'est vrai que le Tour, on pouvait dire qu'il se gagnait ou qu'il se jouait en haut de l'Alpe d'Huez, parce que de très nombreux coureurs ont pris le maillot jaune en haut de l'Alpe d'Huez, ou l'ont consolidé. Et donc on disait en jaune à l'Alpe, en jaune à Paris. Mais ça avait du sens parce que à cette époque-là et pendant longtemps, l'Alpe d'Huez était située au milieu du parcours du Tour de France. Or, depuis quelques années récentes, les organisateurs ont eu la malice, pour ajouter du suspense et de l'intérêt, de placer l'Alpe d'Huez à la fin du Tour de France, dans la dernière semaine et même, comme cette année, dans les trois derniers jours. Et donc, on peut, à mon avis, plus trop dire que le Tour se joue là-haut parce qu'il est déjà joué, mais on peut quand même dire qu'il se joue parce que tout peut se dérouler là-haut encore. Et on l'a vu avec les derniers rebondissements du Tour de France, les champions, les prétendants au titre ne sont pas à l'abri d'une chute ou d'une défaillance. Donc oui, l'Alpe d'Huez reste toujours un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, le jugement de Dieu du Tour de France dans les derniers jours. C'est une ambiance unique, je pense, parce que d'abord, c'est l'arrivée au sommet. Donc ça veut dire que les spectateurs sont assurés d'aller voir les uns après les autres, et puis là-haut, il n'y a plus de chance. Donc il y a une bagarre intense. Ensuite, il y a cette montée en balcon qui fait qu'on les voit de loin. Il y a la magie de la télévision qui donne tout, à la fois les spectaculaires paysages et de l'Alpe, et à la fois la bagarre qui s'y déroule. Et je crois que s'ajoute aussi le fait que l'Alpe est devenue, c'est le premier chapitre de mon livre, un peu le défouloir du Tour. C'est-à-dire que les supporters viennent à la fois pour encourager leur champion, mais ils viennent aussi, je dirais, pour se défouler. On sait tous, les journalistes, que lorsqu'on attaque la montée de l'Alpe, il faut monter les fenêtres de la voiture, parce que sinon vous êtes arrosé de bière et bombardé par la mousse à raser. Encore là, je suis gentil. Donc vous voyez, oui, il se passe beaucoup de choses dans la montée de l'Alpe, mais c'est un chaudron en ébullition et c'est un peu un stade, je crois, à ciel ouvert. Mais là, ce stade-là, il n'a pas de police. Hein. C'est chaque spectateur doit essayer d'être... Alors, il y a eu des débordements. On sait bien, hein, des débordements peut-être quelquefois pas forcément de mauvais spectateurs, mais je pense par exemple à l'année où le coureur qui allait s'imposer là-haut, l'Italien Guerini, c'était en 1993, a été déstabilisé et renversé par un spectateur qui voulait prendre une photo qui s'était mis carrément au milieu de la route. Et donc, il l'a fait tomber. Heureusement, le coureur a pu il était tout près de l'arrivée, il a pu remonter, il a gagné l'étape. Mais voilà, il peut arriver. Il y a Nibali, 3 km avant l'Italien Vincenzo Nibali, 3 km avant l'arrivée de l'Alpe d'Huez, et aussi renversé, il tombe, c'était un prétendant à la victoire. Bon, il termine l'étape bien placé, et le soir, il se rend compte qu'il a la clavicule cassée, il est obligé de quitter le Tour. Donc des drames, il s'en est passé. Il y a eu des défaillances aussi. Mais en 1977, c'est la première fois que Dimers monte les lacets de l'Alpe d'Huez, et c'est la fin du grand champion, parce que dans le col précédent, dans le col du Glandon, il a été victime d'une défaillance, et comme toujours, il essaie de s'accrocher, il se dit, bon, je vais monter l'Alpe. Alors il va monter l'Alpe, mais c'est pas le grand Merckx qui monte l'Alpe, c'est un coureur en fin de carrière, et motivé par son orgueil et sa volonté de terminer là-haut. Il dira d'ailleurs, je suis celui qui a monté l'Alpe d'Huez le plus rapidement. Et on avait l'impression qu'il s'était refait la santé, qu'il avait effectivement bien remonté l'Alpe d'Huez. Mais ça a signé un petit peu la fin de sa carrière. Voyez, donc l'Alpe est le témoin de beaucoup de choses qui ensuite restent gravées dans l'histoire du Tour de France. C'est la 33e édition, parce qu'il y a eu deux fois dans l'histoire du Tour de France où on a monté l'Alpe d'Huez à deux reprises. Donc ça fait, en fait, on est allé 30 fois à l'Alpe, plus les deux autres fois, ça fait 32, et cette année, donc, ça sera la 33e ascension. La première étape, donc, Gap, l'Alpe d'Huez, c'est vendredi, les coureurs vont monter le col Bayard, et puis ensuite, ils vont monter le col du Noyer, le col d'Ornon, qui est juste avant l'ascension de l'Alpe d'Huez. C'est une étape qui est assez longue, qui sera difficile. Et le samedi, veille de l'arrivée du Tour de France à Paris, le Bourdoisin, l'Alpe d'Huez, avec une étape terrible, puisque les coureurs vont devoir monter le long col de la Croix de Fer. Ensuite, ils vont prendre le col du Télégraphe, puis bien sûr le col du Galibier. Et ils vont ensuite prendre un col tout à fait nouveau, que les coureurs avaient découvert en 2013, le col de Sarène, qui n'est pas une mince affaire, pour redescendre un petit peu et ensuite attaquer les derniers lacets de l'Alpe d'Huez. Donc cette étape est très très difficile. Et moi je pense que le maillot jaune, Pogacar, aura la volonté de vouloir s'imposer là-haut, tout simplement pour inscrire son nom au mythe. Je crois que si on est amoureux du Tour de France, si on est respectueux des coureurs, si on veut plonger dans la grande histoire du Tour, parce que je raconte pas seulement les ascensions, mais il y a tous les enjeux qui sont expliqués et développés, alors j'ai la prétention de dire qu'il faut lire Le Tour se joue à l'Alpe d'Huez, ne serait-ce que pour passer un bon moment d'été en compagnie du Tour de France.
RTV 95.7. RTV.